Je souhaiterais commencer ce moment de prédication par un avertissement. Je ne voudrais pas que le mot soit trop fort, mais je vais passer tout à l'heure une vidéo dans laquelle il y a des scènes de violence. Alors, elle n'est pas montrée, mais elle est quand même suggérée. Alors, il n'y en a pas énormément, mais si vous avez une sensibilité à la violence, si vous avez des enfants qui risquent de comprendre ce que ça veut dire, vous pouvez sortir pendant la projection, ça dure 10 minutes, et je vous indiquerai tout à l'heure le moment. Je regarde si j'ai rien oublié, non, je crois. Ah, si. Je vais me libérer de cette prothèse. Voilà. Alors, je ne serais pas original si je vous disais que la vie dans ce monde déchu est un combat. Dans le livre de Job, il est écrit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler ». La vie chrétienne ne fait pas exception à cette règle et elle est souvent semée d'embûches qui rendent notre marche difficile. Le Seigneur Jésus nous a mis en garde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Et Paul et Barnabas confirment, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous l'avez compris, et comme l'a dit tout à l'heure Fabrice et Émilie également, c'est aujourd'hui le dimanche de l'Église persécutée, qui est organisée par l'association Portes Ouvertes, qui mobilise chaque année les églises pour mettre à part ce jour dans l'année pour écouter les témoignages de nos frères et sœurs persécutés et de mieux comprendre ce qu'ils vivent. Et c'est aussi une occasion pour nous, particulièrement, d'être aux côtés de ceux qui, parmi nous, vivent une situation difficile dans leurs relations avec leur famille, ou plus généralement dans leur vie quotidienne à cause de leur foi. Alors j'ai organisé ce temps, alors il faut que je récupère ce temps de prédication en trois moments, avec une... Tu peux lancer la fiche là ? Voilà, merci. La première partie sera informative, c'est-à-dire que j'ai recueilli des éléments auprès de Portes Ouvertes, et ce sera un moment pendant lequel nous ferons rapidement le point sur l'état de la persécution dans le monde. Et je ferai ensuite deux autres parties, plus traditionnelles, en me référant principalement à l'exemple de Paul et aux conseils qu'il peut nous donner pour vivre ces moments difficiles. La deuxième partie sera donc consacrée à nous poser la question « Pourquoi cette haine ? Pourquoi faut-il que des hommes en arrivent à haïr d'autres personnes uniquement en raison de leur foi ?» Et enfin, une troisième partie, en tentant de répondre à une autre question, « Comment font-ils ? Comment font tous ceux qui souffrent pour ne pas baisser les bras ? Pour ne pas dire « Je ne veux plus croire à Jésus », ou en tout cas à l'annoncer. Alors, donc cette première partie sera consacrée à donner quelques définitions, enfin les quelques, non, il y en a une, et à donner ensuite quelques chiffres. Pour Portes Ouvertes, la persécution des chrétiens s'entend dans son sens habituel. C'est toute manifestation d'hostilité à l'égard d'une personne ou d'un groupe qui est motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Alors les persécuteurs sont très divers, ils peuvent être les autorités politiques, la police, les collègues, la famille, les voisins, etc., etc. Et tous ces gens-là peuvent exercer des pressions ou des violences physiques quotidiennes envers les chrétiens pour qu'ils renoncent à leur foi. Toujours selon Portes ouvertes, on distingue deux types de violences. Voilà. Alors, la première violence est classée par Portes ouvertes comme étant une persécution marteau, c'est-à-dire c'est toutes les persécutions qui couvrent les assassinats, les kidnappings, les mariages forcés, les destructions, etc. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'ils appellent la persécution étau, où là, la violence physique n'est pas absente, mais elle est quand même modérée par rapport au premier cas. Là, on a affaire à toutes les oppressions, les rejets, les dénis de droits, les exclusions des groupes ou de la famille, les procès injustes, etc., etc. Et je vais maintenant vous passer la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est consacrée à une jeune femme indienne qui s'appelle Kirti.
Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement. Parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé: veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter? Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. Ce père a répondu: c'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit: croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. Et j'ai dit à ma femme: si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants... J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé: pourquoi jeûnes-tu? Quelle est la raison de ton jeûne? Et elle a répondu: je jeûne pour mes enfants et mon église.
J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en une semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant: c'est la sanction pour votre foi. J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, il me disait d'abandonner Jésus-Christ. Il me frappait violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître. Et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou. Et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir.
Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. j'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimée par Dieu.
Je vais poursuivre en vous donnant quelques éléments chiffrés sur la persécution dans le monde. Je crois que Fabrice l'a déjà dit, il y a aujourd'hui environ 340 millions de personnes qui sont persécutées pour leur foi. Alors, ces données sont extraites d'un document qu'on appelle l'index de la persécution, qui est publié par Portes Ouvertes. C'est plein de renseignements et d'infos sur la vie des chrétiens persécutés dans le monde. Vous pouvez le commander sur le site de Portes Ouvertes. Alors, 340 millions, ça peut effectivement pas représenter grand-chose, mais c'est quand même la population des États-Unis l'année dernière. Alors, au total, en Afrique, c'est un chrétien sur six qui est persécuté. En Asie, c'est deux chrétiens sur cinq qui est persécuté. La pandémie de Covid en 2021 a contribué à intensifier cette persécution par diverses méthodes. Ainsi, dans les pays d'Asie, en général, les chrétiens ont été privés de l'aide alimentaire qui était offerte par le gouvernement. Au Pakistan, un autre aspect de la persécution, plus de 1000 jeunes chrétiennes ont été mariées de force dans l'année. En Chine, l'épidémie a servi de prétexte, bien sûr, à fermer les églises et à interdire même les cultes en ligne sur Internet. Et ce pays est de nouveau monté dans le classement établi par Portes Ouvertes et remonté au 20e rang. Le Nigeria continue d'être un souci pour nous. C'est que les groupes terroristes islamiques comme Boko Haram ou les extrémistes Peul accélèrent leur persécution. Au total, c'est près de 4800 chrétiens qui ont été tués dans l'année, c'est-à-dire plus de 13 personnes par jour. Et 4300 sont aujourd'hui enfermés en prison pour des raisons souvent arbitraires ou sur la base de fausses accusations. Il faut ajouter à ces chiffres des chiffres qui proviennent de la violence qu'on appelle violence cachée, qui est bien plus fréquente que la première, mais qui est bien évidemment moins visible. Il s'agit de toutes les violences telles que les kidnappings de chrétiens, les viols et toutes les autres violences familiales, y compris donc le mariage forcé. Mais si ces chiffres ont de quoi nous attrister, d'autres chiffres peuvent nous réjouir. Les chiffres de la persécution augmentent, mais le nombre de disciples de Jésus augmente aussi. Et si j'emploie le mot « disciple », c'est tout à fait à dessein, parce que je pense que lorsqu'on vit dans un pays comme l'Inde, comme nous l'a montré, il faut avoir vraiment, vraiment envie de suivre le Christ. Et surtout, n'oublions pas que derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent et qui ont besoin de nos prières. Alors, la question qu'on peut se poser, que je me suis posée quand j'ai commencé à préparer, c'est pourquoi tant de haine et de violence? Alors, quelques remarques générales. La première raison qui vient à l'esprit serait de dire c'est la faute des autres. C'est les communistes, c'est les dictateurs, c'est les islamistes en général, c'est l'occultisme, c'est les talibans, etc., etc. S'ajoutent à ça des facteurs historiques ou politiques. Pour beaucoup de dirigeants dans le monde, les puissances occidentales sont des nations chrétiennes. Ce qui veut dire qu'en fonction de la conduite de ces nations occidentales, il y aura plus ou moins de persécutions dans les pays qui pensent que tous les occidentaux sont des chrétiens. Donc, le raccourci est vite fait. On est chrétien, donc on est persécuteur. Vous appartenez au pays qui vous a envoyé chez nous, vous croyez au même Dieu, donc vous êtes des persécuteurs. Et bien sûr, ça génère des représailles vis-à-vis des chrétiens vivant dans les pays en question. Mais je crois que pour y voir un peu plus clair, il faut regarder à nouveau, il faut lire encore à nouveau, il faut pour avoir quelque chose de sûr, pour avoir quelque chose de permanent, il faut se référer encore une fois à la parole de Dieu. Alors la première remarque, c'est que Jésus nous a prévenus. Nous sommes prévenus que nous aurions de la persécution. Dans Jean 15, Jésus nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et au verset 20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et également dans Jean 16, Jésus nous dit « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Et pour tous les chrétiens désireux de rester fidèles à leur Seigneur, de telles paroles constituent un exceptionnel réconfort, un encouragement de prix. Mais de telles paroles, bien sûr, entraînent à coup sûr l'hostilité des dirigeants politiques et religieux de ces pays. Troisième élément, c'est les chrétiens dérangent l'ordre établi. À travers le monde, la variété des sources d'oppression est grande. Ce sont soit, je l'ai dit tout à l'heure, les dictatures communistes comme la Corée du Nord ou la Chine, l'islamisme radical comme au Pakistan, pardon, ou en Afghanistan, et les nationalismes comme le nationalisme indien qui est particulièrement fort dans certains États de l'Inde. Et qui considère que tout ce qui vient de l'extérieur, forcément, le christianisme en particulier, est quelque chose de mauvais. Dans ces pays, les chrétiens sont accusés de mettre en cause l'homogénéité de la société, de trahir les croyances communes, et donc, par conséquent, d'être de mauvais citoyens, des fauteurs de troubles, ou bien des hommes et des femmes à la solde des pays étrangers. Dans ces pays, les chrétiens ne veulent plus vivre selon les coutumes ou les règles du régime ou de la religion dominante. Ils veulent vivre en chrétiens, attachés à la parole de Dieu. Et le processus qui conduit à cette persécution est très souvent le même. Les puissances politiques, idéologiques ou religieuses essayent de bâtir un corps social uni sur la base d'une allégeance commune, comme par exemple un dictateur adulé comme l'est M. Kim Sun-un en Corée, ou bien au Parti communiste en général, ou bien à une certaine façon de pratiquer l'islam, ou bien au nationalisme hindou, comme je disais tout à l'heure. Mais il se retrouve que les chrétiens ont une allégeance bien différente. en la personne de Jésus et de son message. Les autorités politiques, religieuses de ces pays ne peuvent pas accepter cette allégeance à Christ, un Dieu étranger. Malgré tout, la plupart des temps, les chrétiens veulent partager, comme nous, cette bonne nouvelle avec leurs compatriotes, leurs voisins. Et bien sûr, cette bonne nouvelle arrive à convaincre d'autres personnes. Et cela crée des anciens hindous, des anciens musulmans qui ne pratiquent plus la charia. Et ça aussi, c'est important et c'est insupportable pour les dirigeants des pays parce que ça met à mal l'uniformité de la vie sociale. C'est pourquoi la persécution prend souvent, dans ces pays-là, la forme de lois contre la conversion. Les lois anti-conversion existent dans quelques États de l'Inde ou contre l'apostasie dans les États musulmans intégristes. Et dans ces pays, les convertis sont bien sûr les premières victimes. Enfin, les chrétiens sont persécutés parce que le monde ne supporte pas ceux qui ne se conforment pas à lui. Parce qu'ils se soumettent à une autorité supérieure, les disciples ne partagent pas les valeurs du monde et le monde n'aime pas du tout ce qui est différent de lui. Jésus affirme, si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais moi, je vous ai choisi et pris hors du monde et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. C'est simple. Le monde vous hait parce que vous ne voulez plus vous soumettre à lui. Et si le christianisme ne se laisse pas facilement anéantir, c'est parce qu'il est fondé sur la vérité du message de la parole de Dieu et qu'il est fondé sur une personne qui est Jésus, le Fils de Dieu. Ça n'est pas une conviction purement mystique, ni fondée sur la tradition, ni sur une vision purement matérialiste de la vie. La vérité du christianisme porte un nom, c'est Jésus-Christ. La vérité est donc une personne incarnée, aimante et aimée. La personne de Jésus suscite non seulement une adhésion, mais un attachement difficilement remis en cause. Voilà donc les trois raisons principales pour expliquer la persécution. Troisième partie, comment font-ils pour résister? Qu'est-ce qui permet aux chrétiens de tenir ferme malgré toutes ces souffrances? Une première réponse d'où découlent toutes les autres, c'est que les chrétiens font la première place au Seigneur. Première place dans leur vie au Seigneur. Faire la première place au Seigneur, c'est nous tourner le plus souvent possible vers Jésus et ses enseignements. C'est le plus possible obéir à sa volonté en approfondissant la compréhension que nous avons des Écritures. Et je ne parle pas d'une attitude purement mystique, d'une contemplation mystique, mais d'un acte pratique qui est de regarder Jésus avec nos yeux du cœur, l'écouter parler et décider de le suivre comme un fidèle disciple. Tenir ferme, c'est donc fortifier notre foi et notre relation à Dieu. Et quel conseil nous donne Paul? Premièrement, c'est de compter sur la puissance de Dieu qui nous transforme. Paul, lui, vous le savez, ira jusqu'au bout de la mission que Jésus lui avait confiée sur le chemin de Damas. Malgré toutes ces souffrances, tous ces emprisonnements, toutes ces persécutions, il a conduit sa mission à bien parce qu'il est l'instrument que Dieu s'est choisi pour porter son nom devant les nations. Et même s'il doit souffrir pour accomplir cette mission, il reste sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Cette protection n'empêchera pas les souffrances, mais lui permettra de les supporter, car il met toute sa confiance en Dieu pour le fortifier et le consoler. Deuxième méthode, entre guillemets, c'est se laisser transformer par la contemplation du Seigneur. Il est possible de contempler le Seigneur tel qu'il apparaît dans les Écritures, car les Écritures sont comme le miroir qui réfléchit son image. En 2 Corinthiens 3, 18, on lit « Et nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Tandis qu'ils contemplent la gloire de Dieu, les chrétiens sont continuellement transformés en l'image du Christ. Ressembler à leur Seigneur est leur but ultime. Et lorsqu'ils portent leur attention sur lui, l'Esprit les transforme davantage à son image. La connaissance et l'amour de Dieu, voilà notre trésor. Ce trésor est bien plus précieux que tout ce que tous les chrétiens pourraient gagner en se coulant dans le moule de notre monde. Dans Romains, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Quand on croit, et j'espère que c'est votre cas, que nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, comment pourrait-on ne plus y croire? La transformation des croyants à la ressemblance de Christ est un thème fréquent dans les écrits de Paul, et c'est à coup sûr le moteur de son courage pour affronter les persécutions qui ont jalonné toute sa vie. Et je suis sûr que si nos frères fortement persécutés peuvent garder leur foi, voire la faire grandir, c'est grâce à leur attachement à Jésus-Christ. Il faut donc, troisièmement, renforcer notre union à Christ. L'union à Christ est aussi un thème cher à Paul. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devons être liés à lui comme le sarment l'est au cep. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. C'est une parole de Jésus que cite Jean. Comment pourrait-on se contenter d'une relation épisodique et superficielle alors qu'on pourrait désirer une vraie communion avec le Seigneur? Et c'est en renforçant notre union à Christ que nous pouvons résister aux attaques dont nous sommes l'objet. Quatrièmement, pouvoir compter sur la consolation de Dieu. C'est Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. En 2 Corinthiens 1, il est dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Paul affirme que Dieu est venu à lui au milieu de ses souffrances, pour le fortifier, pour lui donner du courage et de la hardiesse. Soyons sûrs que nos frères et sœurs gravement persécutés comprennent ce que Paul veut dire. Et nous aussi, nous pouvons compter, même si nous ne sommes pas persécutés violemment, nous pouvons compter sur la consolation du Seigneur lorsqu'on affronte des moqueries, des rejets divers dans notre monde et dans notre vie. Car c'est Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. Cinquièmement, compter sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont telles qu'elles nous aident à supporter les épreuves avec patience et persévérance. Adressons-nous à Pierre qui nous dit vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Et Jésus nous dit dans Marc, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Tenir bon dans la foi avec persévérance. Sixième méthode, sixième moyen, utiliser les armes de Dieu. Paul nous dit dans Éphésiens 6, « Revêtez-vous, c'est un passage connu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez avec vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je terminerai en forme de conclusion en disant que même si notre vie chrétienne n'est pas semblable ni similaire à celle des chrétiens en Asie ou en Afrique, la façon dont ils vivent leur foi peut nous servir à vivre la nôtre. Quoi qu'il en soit, les paroles de Jésus ou de Paul sont et doivent, pour nous comme pour eux, être des fortifiants utiles à notre croissance spirituelle. Nos frères persécutés nous enseignent la persévérance et nous invitent à remercier le Seigneur pour le soutien et la protection qu'il nous accorde. Prenons toutes les armes de Dieu pour résister dans les tempêtes et tenir ferme. Et pour finir, laissons-nous interpeller par une question. Si les chrétiens vivent paisiblement leur foi, je dirais comme c'est le cas en Occident, s'il y a peu de cas de persécution grave en Occident, est-ce vraiment parce que le système en place est plus clément ou meilleur que les autres? Ou bien est-ce que c'est parce que nous avons décidé de vivre comme le monde? Ou imiter les normes de notre société, ne jamais les critiquer, avoir honte de prendre position pour Christ? En un mot, avons-nous renoncé à déranger? Je voudrais terminer ce moment par une prière que j'adresse à notre Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour toutes les paroles de vie que nous écoutons toujours avec respect, mais pas toujours, malheureusement, avec obéissance. Nous te supplions de veiller sur la santé et la foi de nos frères et sœurs persécutés, de continuer à les soutenir dans les épreuves de la persécution. Nous te prions en particulier pour cette jeune femme indienne, appelée Kirti, et te demandons de continuer à la soutenir dans ses difficultés et de continuer à la garder dans la persévérance et l'amour qu'elle a pour toi. Et qu'ainsi elle soit un témoin fidèle pour toute sa communauté. Merci Seigneur.